indiquer la nécessité que nous avons d'identifier l'instrument qui est utilisé. Donc il y a souvent du temps et du temps. Là, nous avons le cas d'une personne qui avait été assassinée et vous aviez ces curieuses lésions au niveau du cuir chevelu et au niveau de la voûte crânienne. Vous avez donc ces enfoncements qui sont calendulaires, qui ont pratiquement le même aspect, les mêmes caractéristiques, et souvent qui sont, vous voyez ici, associés deux par deux. Donc le problème est de savoir avec quel instrument ceci a été réalisé. Alors c'est écrit, vous voyez, on le photographie. Ensuite, sur la diapo suivante, vous avez la réponse, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce côté calendulaire. Donc nous avons une précision quant aux marques qui sont utilisées. Là, vous avez un peu triangulaire. Et nous avons donc pensé qu'il s'agissait d'un marteau tire-clou. Parce que dans les marteaux tire-clou, vous avez deux espèces de points qui sont calendulaires, de sections, pour permettre de coincer le clou et de l'arracher. Et donc vous avez deux par deux ces lésions. Et c'était, à notre sens ici, le seul instrument où nous avons comme ça deux lésions qui peuvent être associées. Donc ce qui a été fait, donc ça a été reproduit, donc on a acheté un marteau tire-clou, et nous avons réalisé ces empreintes sur la pâte à modeler. C'est le docteur Géraud qui a fait tout ça. Et donc, ceci correspondait, quand on a comparé les deux, nous étions effectivement sur des lésions provoquées à l'aide de cet instrument-là que vous avez là. Et donc ça permet aux enquêteurs d'aller retrouver éventuellement ce marteau, faire les empreintes sur le marteau pour essayer de voir si l'agresseur a laissé sur le gris des cellules qui nous permettent de l'identifier. Donc c'est important pour nous, dans ces blessures d'arme blanche, de pouvoir identifier l'instrument qui a été utilisé. Dans les coups de couteau, vous savez qu'il y a des couteaux à cran d'arrêt, vous avez d'autres couteaux de cuisine. Donc on va essayer toujours de savoir si ce sont des couteaux avec un fil et un talon, ou s'il y a deux fils. S'il y a deux fils, donc deux côtés aiguisés, c'est forcément un cran d'arrêt, ce type de choses. Comme nous avons un fil et un talon, ce sont d'autres types de couteaux, en différenciant les couteaux à pain, les couteaux et ainsi de suite. L'étude très minutieuse des lésions nous permet d'aller quand même assez en avant pour décrire quels sont les instruments qui sont utilisés. Les armes à feu. Nous allons voir tout d'abord dans la première diapositive, un cas simple, là, vous avez l'empreinte laissée par la bouche du canon. Vous avez exactement là l'empreinte, donc vous pouvez comparer ce genre de choses. Alors c'est rare que nous avons ce type de lésion, mais la comparaison, la photographie et ensuite les empreintes peuvent correspondre. La suivante vous montre d'autres. Aussi, je vais prendre un type de description. C'était un jeune homme qui avait été retrouvé chez lui dans sa chambre, et ce jeune homme avait été atteint de trois coups de feu. Trois coups de feu pour une victime, ceci nous fait penser à un homicide plutôt. Il y a des cas qui ont été décrits dans notre pays où des gens se sont suicidés par trois coups de feu, mais enfin bon, c'est un peu rare et c'est difficile à expliquer. Donc nous étions orientés sur la piste criminelle. Permettez-moi de décrire juste les orifices d'entrée. Vous avez un orifice et qui était au-dessus de l'oreille à droite. Ce projectile avait été retrouvé sous la peau à gauche, donc c'était un projectile transfixiant au niveau du crâne. Nous avions un autre projectile qui avait atteint la victime entre les deux yeux. Et nous avions un projectile qui avait atteint la victime au niveau du sternum. C'était des projectiles de type de longue. Nous étions quand même un petit peu embêtés. La suivante vous montre les clichés radiographiques. Donc les clichés radiographiques, tout d'abord le projectile B, c'est celui qui a traversé de droite à gauche et était retrouvé sous la peau, à ce niveau-là. Nous avons le projectile A, donc le sternum a été retrouvé en regard de la colonne thoracique, donc il avait été transfixié en partie. Et nous avions ce projectile qui avait été... Là, ce projectile-là, qui était retrouvé, si vous voulez, derrière les yeux. Nous avons un os qui s'appelle l'os sphénoïde et qui est juste derrière le nez. Et le projectile s'est écrasé dans cet os derrière le nez. Bien. Comment expliquer un suicide avec ces trois projectiles? Nous avons eu recours au modèle élément fluide, c'est-à-dire pour essayer d'approcher quelles sont les forces qui sont données au corps, quels sont les ébranlements qui sont donnés au niveau du cerveau pour savoir si le sujet avait pu garder suffisamment de conscience pour tirer ces trois coups de feu. la suivante vous montre ce projectile-là au niveau de l'aorte. Donc ce projectile a provoqué une hémorragie. Mais l'hémorragie au niveau de l'aorte peut durer quelques temps, moins de 3 minutes, mais ce n'est pas vraiment mortel. C'est ce qui est important. Donc, je veux dire, quelqu'un peut encore avoir certaines capacités après ce coup de feu. La suivante. Vous avez le projectile qui a traversé la voie crânienne, il est immédiatement mortel. La personne ne peut plus réaliser quelques gestes que ce soit après un coup de feu qui transperce. Et là, vous avez donc l'os sphénoïde. Ce projectile-là n'a pas pénétré dans la voie crânienne. Donc, il est resté en dehors du côté cérébral. Il n'a pas pénétré dans le cerveau. Donc, il n'y a pas eu de lésion cérébrale par ce projectile. On va utiliser ce modèle hémophilie. Tu affiches déjà plus du tout. Voilà. Donc là, nous avons un crâne d'adulte, il est digitalisé, reconstruit, et donc il est divisé en parties très fines qui sont maillées. Et je veux dire, c'est ces parties qui, par l'ordinateur, par voie informatique, vont être bougées les unes contre les autres pour voir comment se comporte l'os, comment se comporte ensuite le cerveau suite à un coup de feu de ce type-là. C'est-à-dire qu'on modélise, et là vous avez le crâne qui est avec la face, vous avez la dure mère, vous avez les différents éléments, là vous avez le liquide céphalo-rachidien qui est modélisé, et le cerveau. C'est-à-dire que, j'allais dire, la résistance de tous ces tissus est calculée et mise en jeu quand on tire après, de façon virtuelle, un projectile au niveau cérébral. Donc j'allais dire, c'est l'application de tous les aspects. De tous les jeux. Là, vous avez le projectile qui est tiré et qui avance. On va le refaire après, voilà. Il a été tiré à ce niveau-là, il avance, vous voyez, il avance ici, toujours ce projectile, et là, il va s'écraser au niveau du sphénoïde. Alors, juste un instant. Ici, vous avez un crâne, hein, c'est comme si je le mettais comme ça, de face avec vous. Ici, vous avez donc la mandibule, la bouche, le nez, et ceci, la partie au-dessus du nez, où le coup de feu a été tiré. Là, vous avez le cerveau, et le sphénoïde, donc cette os qui se situe ici. On va peut-être refaire une démonstration. Voilà. Donc vous avez le projectile qui avance, qui continue sa pénétration et qui va s'arrêter dans cette région-là. Donc on a pu modéliser ce tir et voir ensuite, au niveau des différentes structures du cerveau, quel est l'impact. La suivante. Voilà de nouveau le cerveau vu d'en bas. Et vous avez les zones rouges qui sont des zones qui ont été les plus touchées par ce projectile, avec une force pression de 20 kPa. Alors quand je dis que la limite de tolérance du cerveau est de 250 kPa, vous vous apercevez que ce projectile, donc celui qui a été tiré entre les deux, écrasé, n'avait pas suffisamment de force, de puissance pour provoquer une perte de conscience. En effet, nous sommes à 10 fois moins de la tolérance, de la limite de tolérance du sujet. Donc, après ce coup de feu, ce jeune a encore pu réaliser d'autres tirs. La suivante. Donc, dans la conclusion, nous avons un, ce projectile qui n'a pas entraîné de perte de conscience, mais la victime était aveugle. C'était quelqu'un d'entraîné au tir. Il a rechargé son arme. Il a tiré le deuxième projectile au niveau du sternum avec atteinte de l'aorte. Et il a pu recharger dans les quelques, la fraction de, dans les quelques secondes ensuite, voire une minute, il a pu recharger son arme et avoir le tir fatal qui était le tir donc au niveau de la tempe à droite qui a traversé le cerveau qui a tué. Et donc grâce à ça, nous avons dit que le suicide est possible. Je ne suis pas engagé de dire c'est dans tous les cas un suicide, mais il est possible, on ne peut pas exclure le suicide. Et depuis, bon, ça fait quelques temps que c'est passé, nous n'avons, il n'y a pas eu d'hypothèse criminelle qui s'est révélée au jour. Donc vous voyez, grâce à cette modélisation, à cette étude, on a pu aller vers ce suicide. Alors que quand vous avez trois coups de feu pour un sujet, c'est habituellement criminel. Nous avons dû démontrer ça devant les magistrats pour convaincre les gens que ça pouvait effectivement être, que le sujet a pu être à l'origine de ces trois coups de feu. La suivante. On va maintenant voir un petit peu tout ce qui concerne l'imagerie post-mortem. Donc c'est l'application de toute l'imagerie que vous pouvez avoir, vous, en tant que patient, scanner l'IRM, au niveau post-mortem. Donc nous réalisons ceci grâce aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui nous mettent à disposition donc leurs appareillages, scanners, que nous utilisons pour pouvoir, dans les cas criminels, dans les cas difficiles, avoir cet éclairage. La suivante, vous avez là par exemple des fractures. Ici, la fracture du fémur ici, vous avez les fractures au niveau des deux os d'une jambe, de la jambe droite, que vous voyez ici pour le sujet couché sur le dos. Alors vous savez, dans certains cas où nous devons réaliser une levée de corps, une autopsie, alors c'est un traumatisme qui n'est pas du tout criminel, une défenestration, une chute, mais qui est mortelle, notamment dans les accidents du travail, nous pouvons, grâce à ces lésions, avoir directement accès aux lésions et pouvoir dire aux enquêteurs, voilà, nous avons telle et telle lésion, ça provoque le décès et nous sommes dans quelque chose d'accidentel. Alors c'est sûr que c'est accident, c'est pas forcément criminel, mais quand il s'agit du travail, il peut s'agir d'une faute inexcusable de l'employeur qui vient à d'autres retentissements, donc nous devons quand même absolument avoir une étude précise ensuite du mécanisme lésionnel pour retracer effectivement les lésions et comment se sont produites les lésions. Mais ceci nous permet d'aller quand même assez rapide dans l'analyse des lésions avant toute autopsie. La suivante, le traumatisme crânien, vous voyez clairement un traumatisme crânien qui a porté ici au niveau de la région pariéto-occipitale à gauche, et vous voyez cet enfoncement de cette région. Donc c'est un objet contendant d'une certaine surface qui a été à l'origine de cette lésion. Et vous avez le contre-coup qui est de l'autre côté, ce contre-coup est à ce niveau-là, où vous avez ces fractures osseuses, c'est-à-dire que le crâne a été plaqué contre un plan dur de l'autre côté. Donc nous pouvons expliquer par où venait le coup, quelle était l'importance de cet objet contendant, et les lésions ensuite internes sont expliquées. Mais ce sont d'autres coups. La suivante, vous montez le projectile ici en bleu, là vous avez la colonne vertébrale, l'épaule, et puis vous avez la localisation de projectiles qui peuvent être faits avant la dissection. Ça nous permet de bien diriger notre autopsie ensuite, si nous avons repéré les projectiles d'un feu, parfois c'est un repérage un peu difficile. La suivante vous montre de nouveau un crâne, un traumatisme facial qui est ici, avec un coup de poing très important qui a été imprimé à cette victime, mais là nous avons une fracture au niveau de la mandibule, c'est vraiment au niveau du menton, et nous avons une fracture au niveau de la partie supérieure du maxillaire, une fracture de l'œsophage. Donc là, d'une part, nous avons les lésions, d'autre part, nous pouvons nous prononcer sur l'intensité du coup, qui a dû être violente, si nous n'avons pas ces fractures-là, et ceci permet déjà de renseigner les enquêteurs quant au procédé qui a été employé lors de ces lésions. C'est une personne qui est décédée de ces lésions-là, et ça nous a permis un petit peu d'expliciter comment l'agresseur a réalisé son crime. La suivante. Là, vous avez un nouveau. Ça, c'est un tibia et une fibula, ce qu'on appelait dans le temps un péronnet. Et vous avez les lésions en papillon qui sont ici. Ces lésions osseuses qui ont été provoquées par un heurt, donc un coup qui a été porté à ce niveau-là. Et le coup est venu au niveau de la gauche vers la droite pour réaliser ces lésions. Et ça, ce sont des lésions typiques de piétons renversés par les voitures. Donc là, on peut savoir quelle était la position du piéton par rapport au pare-brise et donc l'incidence qui a été faite, donc ça c'est la partie externe ici, la partie interne est là, et donc on pourra expliquer quelle était la position du piéton sur la chaussée par rapport au véhicule, et il faudra qu'on ait le type de véhicule pour savoir si c'est compatible avec la hauteur du pare-brise et les mesures qui sont faites. Un peu plus difficile à voir, vous avez des encoches qui sont ici au niveau des côtes. Là où vous avez les flèches, ce sont des encoches réalisées par un couteau, donc ce sont des coup porté avec un instrument, un couteau, au niveau thoracique, passage par les côtes, et là, sur ces images-là, on peut le voir très rapidement. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut avoir tout de suite après l'imagerie et avant l'autopsie, pour enseigner les enquêteurs, de nouveau sur la force et sur l'origine. Vous avez un corps étranger, ici, c'est une personne qui a bénéficié d'une ostéosynthèse au niveau lombaire, lombo sacré, donc là, ce sont des éléments d'identification quand on recherche une personne et que nous savons qu'elle a subi une telle intervention, nous pouvons le retrouver facilement sur les clichés pour décrire le matériel qui a été utilisé et le type de montage qui a été employé. Nous recherchons également parfois la présence d'air dans le thorax, car le thorax est coupé dans ce sens-là, donc on ne voit pas le haut. Et là, nous avons le cœur et nous voyons de l'air à ce niveau-là. C'est dans le cas de pneumothorax qui sont ici, le pneumothorax droit. Sur la suivante, vous voyez le cliché. Voilà, c'est la personne qui est donc vue comme moi de profil. Enfin, c'est dans le profil comme ça. Et puis là, vous avez cette poche d'air qui peut nous montrer un pneumothorax. Donc, quelqu'un qui a été atteint par un objet qui est venu perforer, si vous voulez, la plèvre avec de l'air qui se trouve à ce niveau-là. C'est important puisque, comme vous disiez, quand l'air s'en va, donc on peut ne plus retrouver cette air lors de la dissection. Il faut absolument que nous ayons une indication sur cet aspect avant la dissection. Voilà, de nouveau, quand nous retraçons des trajectoires au niveau des projectiles, c'est plus aisé à faire sur ces clichés. Vous avez là de nouveau les côtes, comme la vertèbre derrière, et là vous avez un projectile qui a ricoché au niveau de la partie sternale, qui a atteint une côte et ensuite qui s'est logé au niveau vertébral. Et cette trajectoire peut être retracée grâce au scanner de façon plus aisée que nous ensuite lors de la dissection. On peut retrouver les lésions lors de la dissection, mais bien pour montrer la trajectoire et comment ce ricochet a pu arriver, comment vous avez une trajectoire atypique, puisqu'elle n'est pas droite, elle est vraiment complètement curviligne, comment ceci a pu être réalisé. Nous pouvons l'expliquer de façon plus simple par ces images. Nous allons maintenant voir deux cas particuliers au niveau des lésions de strangulation et au niveau d'autres lésions au niveau du coup de feu. La strangulation. Alors, vous savez que c'est une atteinte au niveau manuel pour étouffer le sujet. Donc, je veux dire, c'est une strangulation, c'est soit au lien, soit à la main. Et ce que nous cherchons toujours, c'est au niveau de l'ostéolithe, c'est un os qui se retrouve ici, qui porte les muscles de la langue. Et c'est un os-là qui présente deux fractures de ses corps. Ces deux fractures signent à ce moment-là une strangulation manuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la main de l'agresseur qui est venue essayer donc de comprimer, non pas la trachée, parce que la trachée est plus bas, mais comprimer au niveau du larynx et qui a fracturé ses os. Donc là, maintenant, avec cet examen sonographique, nous avons déjà un signe, c'est la fracture de l'ostéolithe. Nous recouvrons de toute façon l'autopsie dans ces cas-là, puisque nous passons à côté de certaines lésions des parties bonnes. Mais au moins, nous sommes certains déjà du diagnostic avant l'autopsie. Et là, vous avez également, de nouveau, ces fractures, là, au niveau laryngé un peu plus bas. Donc, des indications tout à fait importantes. Vous avez maintenant une fracture toujours, vous avez cette ostéolithe, là, qui est disséquée, vous avez cette fracture qu'on voit ici. Donc, l'imagerie permet, non seulement d'objectiver, mais de garder ses preuves. Ce que je vous projette là, je le projeterai en cours d'assises pour expliquer quel a été notre travail et nos résultats au jury populaire. Et eux vont avoir toutes les images d'autopsie que vous n'avez pas vues ici. Donc nous pouvons vraiment attester de ce que nous avons trouvé et du raisonnement que nous avons tenu. Voilà encore une localisation de projectiles qui se fait. Là, vous avez l'orifice d'entrée. C'est un crâne qui est là. Donc vous avez l'orifice d'entrée. Vous avez sur la suite, là, vous avez l'orifice de sortie. On peut voir ici, donc nous avons la trajectoire qui est là, de droite vers la gauche, donc qui peut être matérialisée sur ces images, la suivante. Et là, vous avez la localisation du projectile dans la partie postérieure du crâne, donc là, au niveau de la région occipitale. Donc nous savons, et là, vous avez tous les travaux dentaires qui apparaissent aussi, mais qui ne nous intéressent pas dans ce cas-là. Ce qui nous intéresse, c'est ce projectile qui apparaît là, en bleu. La suivante. Donc, nous, en projectile d'entrée, vous avez les yeux, le nez, projectile d'entrée au niveau frontal. Donc on est certain, ça c'est la distinction, mais certain du caractère d'entrée, c'est-à-dire que le projectile est à bien pénétré, donc c'est un pousseux qui atteint le sujet de l'avant. La suivante vous montre l'orifice de sortie au niveau occipital ici. Et vous voyez la différence entre l'orifice d'entrée qui est beaucoup plus long et l'orifice de sortie qui est très angulaire. Donc là, on ne peut pas se tromper dans la direction, dans la trajectoire, dans les orifices. Et ça c'est tout à fait important puisque les personnes qui sont mises en cause vont dire non, moi j'étais beaucoup plus loin, je ne l'ai pas vu, j'ai tiré par derrière, par le moral. Vous avez un certain nombre de déclarations où nous pouvons dire non, il s'agit bien d'un tir là antérieur qui a atteint la victime de l'avant vers l'arrière au niveau frontal et qui est sorti au niveau occipital. La suivante, au niveau des limites pour le scanner, alors certains ont parlé de virtopsie contre les taux scanners, non. Le scanner ne vous donne pas toutes les indications. D'abord pour les tissus, donc tout ce qui est muscle, tout ce qui est facial, tout ce qui est artériaux veineux, nécessite encore une dissection. Nous n'arrivons pas suffisamment à voir ces lésions-là. D'autre part, si vous avez des corps étrangers métalliques, comme des ostéosynthèses, ces corps étrangers vont brouiller ce que nous souhaitons rechercher. Donc c'est très difficile. D'autre part, nous avons des modifications post-mortelles de certains organes qui vont induire des faux positifs ou des faux négatifs, et nous avons toujours des modifications microscopiques, on ne verra qu'au microscope, donc on ne les verra pas au scanner. Donc le scanner, oui, je vous l'ai montré, pour certaines lésions, notamment tout ce qui est fracturaire, pour d'autres éléments, on va le faire avant l'autopsie, mais nous allons toujours compléter par l'autopsie pour visualiser ces lésions, pour les prendre en photo, les prélever pour faire des analyses microscopiques et bien essayer de caractériser ce qui s'est passé. La suivante. Au niveau de la noyade, on va prendre la suivante. Vous avez ce que j'essaie de vous expliquer ensuite, là, un sujet qui se noie. Un sujet qui se noie va inhaler les diatomées qui sont dans le cours d'eau. Ces diatomées vont pénétrer dans le poumon, vont passer dans le cœur et vont ensuite se localiser dans les différents tissus, dont la moelle osseuse. C'était le cas de notre sujet, donc nous avons pu prouver qu'il s'est noyé. Alors, le problème est toujours de faire la différence entre une vraie noyade, une inhalation d'eau, et, j'allais dire, quand un corps est déjà décédé et qu'on le précipite dans l'eau pour camoufler un crime. Quand vous précipitez un sujet qui est déjà mort, il y a des diatomées parfois, quand il séjourne, quand le corps séjourne en profondeur, après 2 ou 3 mètres de profondeur, il y a des diatomées qui vont pénétrer dans le poumon et qui ne vont pas être entraînées vers les autres tissus, dont la moelle. C'est-à-dire que là, nous pouvons faire la différence entre un sujet déjà décédé, qui a été placé dans l'eau, et un sujet qui s'est vraiment noyé, et puis là, je vous mettais de nouveau ces diatomées qu'on reconnaît très bien, qui résistent à la putréfaction, qui résistent au feu, donc nous les retrouvons dans un certain nombre de conditions. Pour la petite histoire, ce test-là avait été tout de suite appliqué dans l'affaire de Grégory Villemain au niveau pulmonaire, nous aurions peut-être pu avancer. Mais à une époque, c'était un procédé qui était connu, puisqu'il a été décrit en 2004, mais il n'avait pas été remis au bout du jour avec de nouvelles normes, donc il n'était pas forcément disponible. La suivante. Voilà encore ces diatomées qu'on reconnaît bien, qui sont là, prélevées dans l'eau, et qui, alors ces diatomées-là ont à peu près 10 microns, donc elles pénètrent très aisément dans les voies respiratoires, et ensuite dans les tissus, et vous avez les atlas qui montrent ces diatomées, et qui nous permettent, nous, de bien les analyser, de bien les reconnaître, et de bien faire la comparaison entre le cours d'eau et les tissus. Médecine clinique, là on passe maintenant au vivant, donc nous voyons à peu près 2000 victimes vivantes par an au niveau de consultations, des agressions physiques, des agressions sexuelles, de la traitance, et nous allons voir ensuite la place des examens complémentaires. Alors voilà, c'est une personne qui déclare avoir été victime d'une strangulation, préhension manuelle. Alors quand ces personnes viennent, souvent, il y a très peu de signes, vous voyez une rougeur, hein, également, là vous avez des traces un petit peu équivoques qui peuvent être en relation. Mais nous n'avons pas beaucoup plus. Alors comment affirmer que la personne indique quelque chose qu'elle a vraiment vécu? Vous avez ici l'imagerie. Les images IRM qui montrent bien ici les suffusions hémorragiques. Là vous avez la rotite, là, la trachée, les suffusions hémorragiques. Donc nous avons une preuve par l'imagerie qu'effectivement, il y a eu violence à ce niveau-là, avec suffusion de sang au niveau des parties molles. Donc la personne dit vrai, et donc nous pouvons l'analyser. La personne ne peut présenter aucun autre signe, pas de problème respiratoire, mais la appréhension a été aussi forte qu'elle a provoqué les lésions internes. La suivante, de nouveau, là, vous avez des lésions, ce qu'on appelle, nous, des stigmates aqueuses, c'est-à-dire des coups d'ongles, parce que la personne a été vraiment tenue fortement. Et de nouveau, à l'imagerie, là vous avez la lance, vous avez le conduit aérodigestif, et là vous avez effectivement des lésions. Vous voyez, ça c'est une équimose qui se trouve à ce niveau-là, et qui signe l'agression, qui signe un processus agressif à ce niveau-là. Donc là, de nouveau, c'est bien, là, de nouveau, nous sommes devant preuve médicale de ce qu'a fait la victime. En ce qui concerne, comme dit, ces urgences médico-judiciaires, effectivement, nous allons toujours procéder, comme tout examen médical, par un interrogatoire pour savoir ce qui s'est passé, Nous allons reprendre une constatation des lésions en mesurant les plaies, les blessures, et nous allons confronter ces lésions avec ce que la victime nous déclare pour savoir si c'est compatible avec ce qui s'est passé, pour ensuite déterminer une période d'incapacité. Ce qu'on appelle les ITT, c'est une perte d'autonomie, puisque c'est grâce à cette ITT que le magistrat va incriminer les faits. Ça passe plutôt du tribunal de simple police, tribunal correctionnel, vous avez ceci dépendant du magistrat qui se sert un petit peu de nos certificats, de nos périodes d'incapacité, pour incriminer les faits. Dans tout état de cause, nous devons vérifier que le mécanisme lésionnel qui est donné par la victime correspond aux lésions que nous avons pu voir. Souvent, l'agresseur dit non, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout procédé comme ça. C'est faux, la personne ment, donc il faut que nous puissions dire, attendez, ceci est exact, ceci est inexact, et ceci correspond. Dans les reconstitutions, c'est ce que nous demandons au magistrat. La suivante. Les empreintes génétiques, au niveau des examens complémentaires, juste pour insister qu'actuellement, nous travaillons à partir de tous les substrats biologiques qui peuvent être prélevés, que ce soit une victime vivante, une victime décédée ou des surfaces des produits. Tout d'abord, bien sûr, du sang qui peut être récupéré par un embryon, taches de sang, sang de la victime. Nous avons également les cheveux à partir desquels nous pouvons travailler, les ongles, quand la victime griffe son agresseur, on retrouve des cellules de l'agresseur sous les ongles, on prélève tout de suite les tissus sous les ongles, naturellement les tissus musculaires, les tissus osseux, les tissus dentaires. Donc tous les tissus biologiques qui contiennent un embryon peuvent être utilisés pour réaliser cette empreinte génétique. La suivante, vous avez là des taches de sang qui peuvent être utilisées, là vous avez les aspérités d'un couteau, c'est la partie supérieure d'un couteau. Souvent ce sont des couteaux qui ont un cran aussi pour bloquer, alors au-dessus c'est un peu crêvé, vous avez une fille de l'autre côté. Alors quand la personne met son doigt sur cette partie crêvée, elle laisse des tissus, des cellules cutanées. Là-dessus nous pouvons maintenant actuellement faire une empreinte génétique. Là vous avez une tache sur le sol qui peut être prélevée également. Au niveau sperme, c'est soit des examens que nous faisons lors de l'examen gynécologique de la victime avec des écouvillons, ce sont des grands cotons-tiges et on prélève au niveau vaginal et au niveau du col de l'utérus des sécrétions pour retrouver les spermatozoïdes pour réaliser l'empreinte de l'agresseur, mais également des taches de sperme qui seraient sur des vêtements type slip, type drap, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr, classiquement, on recherche les spermatozoïdes parce que ce sont des cellules masculines par excellence, donc on est sûr d'avoir la possibilité d'avoir le profil de l'agresseur, mais pour les personnes qui n'ont pas de spermatozoïdes actuellement, nous pouvons retrouver d'autres cellules que l'individu peut laisser, qu'il s'agisse de poils, mais qu'il s'agisse aussi de cellules qui ont desquamé, qui sont parties, qui restent au niveau des voies génitales de la victime. Nous pouvons également avoir une trace masculine et identifier, alors là, de façon formelle, l'individu. La suivante. Vous avez d'autres éléments. Alors, comme dit, vous avez les verres et les canettes. Quand vous portez un verre à votre bouche, vous avez des cellules des lèvres qui restent sur le verre. Ceci suffit largement pour faire votre empreinte génétique. Pour tout ce qui est canette, coca, bière et ainsi de suite, on va prélever le bord qui est porté aux lèvres. Ceci suffit également. Pour le niveau de cigarette, vous savez que par le niveau de cigarette, on a arrêté un certain nombre de tueurs, notamment les tueurs du juge Falcone en Italie, puisqu'ils attendaient le juge et ils fumaient en attendant. Quand il est arrivé, ils l'ont malheureusement aussi, mais ils ont laissé les mégots sur place, et c'est ces mégots qui ont permis leur identification, leur arrestation. Donc les mégots sont, on a de moins en moins de fumeurs. Donc, vous avez tout ce qui est denrées alimentaires, les pommes, bon, c'est pas une denrée alimentaire, mais les chewing-gums aussi, on aime bien, parce que là, vous avez une quantité de cellules extraordinaires pour faire cette empreinte, et également les morsures. Quand les personnes présentent des morsures, avant de faire quoi que ce soit, nous prévenons la morsure, que ce soit la morsure, il y a des cellules de l'agresseur, et nous pouvons l'identifier. Si ensuite la personne s'est lavée avant de venir nous voir, nous pouvons tout faire, toute cette investigation, et là, c'est perdu. D'où les consignes, très bien, de venir nous voir après une agression sexuelle ou non, pour que nous puissions faire d'emblée les prélèvements, et ensuite, c'est pas très agréable, puisque les gens ne peuvent pas se toucher, et ainsi de suite, après une agression sexuelle, et ça nous permet de faire tous les prélèvements, et ensuite que la personne puisse aller ensuite se toucher. Mais pour nous, c'est important pour identifier l'agresseur. Alors nous avions des problèmes au départ sur les jeans, parce que vous avez des colorants dans les jeans qui empêchent nos réactions, qui empêchent les réactions enzymatiques, d'une part, et le coca. Terrible, le coca, il y a des produits dans le coca qui empêchaient ces réactions. Maintenant nous avons d'autres moyens qui lui permettent de dépasser ses inhibiteurs, que ce soit le jeans, que ce soit le coca, puisque c'est des lieux possibles de travail. Vous avez le nombre de gens qui portent des jeans, qui boivent du coca et qui sont impliqués. Et passer à l'as, c'était pas possible. Donc maintenant, nous pouvons, avec beaucoup de possibilités, les identifier. Les cheveux, le poil, effectivement, nous essayons d'avoir des restes de cheveux, de poils, notamment dans les cagoules, c'est le café également, pour identifier les personnes. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont porté la même cagoule, donc il faudra savoir qui était impliqué dans le braquage, et ça, c'est à le fait. Et naturellement, les os et les dents, nous y reviendrons après sur les tissus anciens. La suivante, oui, ça, c'est les tissus osseux, et les tissus dentaires qui peuvent être utilisés, donc on broie les dents. Et on prend le tissu compact ici, comme je vous l'ai montré avant, pour la personne. Et là, nous avons toujours pour éviter les contaminations, puisque les enquêteurs peuvent laisser, ou les fouilleurs peuvent laisser de la dérive sur les os. Donc on abrase la partie supérieure de l'os, et ensuite on prend la poudre de l'os pour faire ces analyses. Ça, je vous l'ai montré déjà au niveau dentaire, les analyses. Donc aussi tout ce qui est urine et les traces de contact. Par exemple, sur ce pistolet, on frotte le grip du pistolet et nous avons l'empreinte du sujet qui tenait le pistolet. Nous avons maintenant la même chose quand il manipule les projectiles avant pour les mettre dans le pistolet ou dans le fusil. On prélève, on essuie bien ce projectile, nous arrivons à trouver les cellules cutanées de la personne qui a mis les balles dans le projectile. Même chose pour les portables. Alors comme dit maintenant, les cas seront 2, 3, 4 portables. Et sur ces portables, ils sont donc frottés entièrement pour retrouver les cellules. On les retrouve assez facilement. Quand les personnes utilisent, pour ne pas laisser de traces des gants en plastique et ainsi de suite, on retrouve le gant et à l'intérieur du gant, nous avons des cellules de déformation cutanée puisqu'ils connaissent. Et maintenant, ils brûlent tout, hein, on a de moins en moins de choses, les gens sont tout à fait avertis. Et quand vous avez le problème des voitures brûlées, c'est bien pour détruire toute trace biologique, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment c'est ce qui permet de tout détruire. La suivante, et vous avez la cagoule, ce que je disais toujours aussi, les prélèvements au niveau des ongles, c'était pour montrer les mêmes problèmes en Afrique. Les applications d'empreintes génétiques, je vous rappelle à faire longtemps, avec, la fille de mon temps, mais grâce aux empreintes génétiques, on a pu écarter, il y a trois laboratoires en même temps qui ont fait le test, et ce n'était pas une filiation de la part de mon temps. Donc ça a été fait sur les prélèvements de l'un et de l'autre, donc ça permet quand même d'avoir des mêmes choses. Thomas Jefferson, alors ça je vais vous montrer, c'est une publication de Nature, c'est-à-dire que Thomas Jefferson était un petit peu à l'origine d'une descendance de Easton Ellings, c'est-à-dire une descendance extra-conjugale par un criminel, enfin, qui aurait eu avec une esclave noire de l'époque. Donc ça préoccupait beaucoup les Américains. Et sur la prochaine diapositive, je vais vous montrer comment ça a été fait. Là, il y a Thomas Jefferson avec le chromosome Y. Et ça s'est passé par le chromosome Y. Et vous avez donc Mark Norwood, qui était son épouse, et ils ont eu Martha Jefferson, qui était l'épouse, enfin qui était une enfant légitime. Mais ce qui est important, c'est de voir que le chromosome Y venait de son papa ayant eu, enfin c'est son papa, un frère, et le frère avait une descendance. Donc le Y, c'était transmis du père vers Thomas Jefferson, mais aussi du père, enfin, comme il était frère, donc du grand-père, vers une autre descendance. Et nous avions les personnes qui ont fait cette étude avaient ce chromosome Y. Donc on avait Y de Jefferson. Et vous voyez Jefferson avec Sally Ellings, donc cette personne qui était donc esclave, et vous avez Easton qui est ici avec Y. Easton a eu lui-même des enfants, mâles, et vous avez ici le petit arrière-petit-fils ici, et c'est par cette Y-là qui correspond avec l'Y de l'autre branche qui a pu être identifié que ce chromosome Y, les haplotypes de ce chromosome Y venaient bien de la famille Jefferson, et c'était forcément le Thomas Jefferson qui était à l'origine. Donc après plusieurs générations, comme le chromosome Y, comme une mitochondrie, se transmet d'une génération à l'autre, le chromosome Y uniquement entre les hommes, il était clair que là, cette preuve a pu être faite. La suivante, on va aller tout de suite sur la famille Romanov. Le tsar, vous avez ici le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra et leurs enfants, donc, qui ont été retrouvés, donc assassinés. Et il était intéressant de pouvoir comparer à ce moment-là l'ADN mitochondrial. Avant d'avoir le chromosome Y, c'est un autre ADN qui se transmet uniquement par les femmes. L'ADN mitochondrial de la tsarina le partageait avec sa sœur, et sa sœur était la grand-mère du prince Philippe des Namur actuellement. Donc, nous avions là cette par le prince Philippe, on avait accès on avait une mitochondriale et on a pu déterminer, puisque la famille Pissard a été étudiée, les analyses ont été faites sur les os sont retrouvés. Et donc on a pu rapprocher cet ADN mitochondrial et montrer bien qu'il s'agissait du même ADN mitochondrial, donc des descendants de l'ADN mitochondrial. Identification pour la tsar. La suivante pour le tsar. Voilà, vous avez le tsar Nicolas II qui est ici, et Louise de Hesse-Cassel qui est ici. Et là, vous avez le tsar de nouveau qui partage l'ADN mitochondrial avec sa sœur, qui ensuite n'a pas été tuée dans avec la Vanille et qui a donné donc une descendance. Nous avons accès ici à l'arrière grand, enfin, c'est une fille, donc une arrière petite fille, et donc l'ADN mitochondrial de cette petite fille correspondait donc aux ossements, et donc on a pu identifier là aussi le tsar, donc, et la tsarine et le tsar, pour pouvoir bien dire qu'il s'agissait bien de la famille Romanov. La suivante, l'état actuel, vous avez l'affaire Dickinson, découverte de quelques particules de sperme avec les spermatozoïdes sur la cuisse de la victime, tuée à la pleine fougère, possibilité d'avoir l'empreinte génétique et par les fichiers internationaux, arrestation de Montes aux États-Unis. Et c'est grâce à ce prélèvement d'une infime part, ceci a pu être fait, l'affaire Guy Georges et qui était le tueur parisien, avec les restes d'ADN, les cellules d'ADN qu'il laissait alors qu'il assassinait ses victimes, la suivante. Voilà. Voilà formellement ce que je voulais vous dire un peu pour la médecine légale, la criminalistique que nous faisons aujourd'hui. Si vous avez du courage, je vous amène en Sibérie, sinon on peut s'arrêter là. Vous avez la présidence.